Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le culte de la Sainte Famille s'est développé au XVIIe siècle, depuis l'Italie jusqu'au monde entier. Pour atteindre son couronnement, sous le pontificat de Benoît XV, au début du siècle dernier, par l'institution de la fête de la Sainte Famille, le premier dimanche après l'Épiphanie. Pourquoi cela ? La Providence divine prépare toujours les remèdes avant l'apparition de la maladie. La famille devait être en effet l'objet d'attaques violentes au XVIIIe siècle pour atteindre un maximum d'intensité au début du siècle dernier avec l'idéologie communiste dont nous subissons actuellement les ultimes développements pratiques. Pour mieux comprendre ce combat planétaire mené contre la famille, nous verrons d'abord ce qu'elle est, ensuite quelle est la stratégie des démolisseurs, et enfin nous ferons une petite conclusion pour essayer de voir comment retrouver la santé de cette famille. Qu'est-ce que la famille ? Notre Seigneur lui-même nous a enseigné que la famille est d'institution divine. Celui qui créa l'homme dès le commencement, dit-il aux pharisiens, les créa un homme et une femme et dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et ils seront deux dans une seule chair. Cette union établie, la famille est formée et notre Seigneur a voulu que cette union soit perpétuelle, indissoluble. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Le mariage, même au point de vue naturel, est indissoluble. Donc la famille, dès le début de l'humanité, est une société stable, voulue par Dieu lui-même. Mais notre Seigneur n'en est pas resté là. Il a voulu élever cette union naturelle à l'état de sacrement pour donner à la famille chrétienne les vertus nécessaires pour porter à leur plus haute perfection les propriétés naturelles de cette union. Le but de cette société est la procréation des enfants. Ce que Dieu a établi en disant à la première famille après l'avoir bénie, « Croissez et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. » Le pape Pie XI en a enseigné les conséquences importantes. Puisque Dieu, dit-il, dans l'ordre naturel, communique immédiatement à la famille la fécondité, principe de vie, donc principe du droit à former à la vie, en même temps que l'autorité, principe d'ordre, la famille reçoit donc immédiatement du Créateur la mission et le droit de donner l'éducation à l'enfant, droit inaliénable, inviolable par quelque puissance que ce soit. Ce droit à l'éducation des parents s'étend jusqu'à ce que l'enfant soit capable de se suffire à lui-même, c'est-à-dire qu'il soit capable de gagner sa vie par lui-même. En effet, dit saint Thomas, la nature ne vise pas seulement à la génération de l'enfant, mais aussi à son développement et à son progrès jusqu'à l'état d'homme parfait. En donnant à la famille la belle mission et le droit de donner l'éducation à l'enfant, et en même temps l'autorité principe d'ordre, Dieu lui confère des devoirs, qui sont résumés ainsi par l'Église dans le droit canon. Les parents doivent pourvoir au bien temporel des enfants, et ont la grave obligation de veiller, selon leur pouvoir, à l'éducation tant religieuse et morale, que physique et civique de leurs enfants. La famille a reçu de Dieu l'autorité sur les enfants. Mais dans cette petite société, qui détient l'autorité ? Y aurait-il égalité ? Saint Thomas répond que c'est le père qui détient l'autorité de chef de famille. Car, dit-il, le père selon la chair participe d'une manière particulière à la notion de principe qui, dans son unité, se trouve en Dieu. Le Père est le principe de la génération, de l'éducation, de la discipline et de tout ce qui se rapporte au perfectionnement de la vie humaine. Dieu a donc voulu que la famille soit une petite société hiérarchisée, mot qui actuellement se conjugue très mal avec égalité, mais parfaitement avec complémentarité. Saint Paul, dans la suite de l'épître de la messe que nous avons entendue et que nous lisons à l'office du jour, rappelle cet ordre hiérarchique. Vous, femmes, soyez soumises à vos maris dans le Seigneur. Vous, maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Vous, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, ne provoquez pas l'indignation de vos enfants de peur qu'ils se découragent. Cette famille hiérarchisée que Dieu a créée dès le commencement, il a voulu la porter à la perfection dans la Sainte Famille, afin que les hommes puissent, dit en substance Léon XIII, avoir en elle la cause exemplaire et le modèle le plus parfait de la société domestique, ainsi que de toute vertu et sainteté. La famille n'est pas un idéal impossible à imiter. Elle est en effet, la Sainte Famille, la cause exemplaire, c'est-à-dire que la Sainte Famille a mérité les grâces nécessaires aux pères, aux mères, aux enfants de toutes les familles qui se succéderont jusqu'à la fin du monde pour pratiquer les vertus qui correspondent à leur état dans cette famille. Dieu, dit saint François de Sales, a doté saint Joseph de toutes les grâces et de tous les dons nécessaires pour remplir sa charge de chef de la sainte famille. Il lui a donc donné un cœur de père pour aimer Jésus, un cœur d'époux pour aimer la Vierge Marie, son épouse, et l'autorité paternelle pour diriger cette sainte famille selon la volonté de Dieu. Alors, père de famille, à l'exemple de saint Joseph, vous devez exercer l'autorité paternelle pour procurer les vrais biens à vos enfants et à votre épouse, ces biens par lesquels ils pourront se sanctifier. Vous devez en être la providence, en veillant à ce que rien ne vienne porter atteinte à leur pureté, tant du cœur que du corps. Cela demande de vous un amour chaste envers votre épouse et un amour surnaturel de vos enfants, les aimant en Dieu et pour Dieu. Vous devez demander à saint Joseph le dévouement, la générosité, le courage et la confiance à la Providence, surtout en nos temps, pour procurer non seulement la nourriture, mais aussi la nourriture matérielle, mais aussi la nourriture intellectuelle et spirituelle, afin que vos enfants deviennent de solides chrétiens dans la société et réalisent ce pourquoi Dieu vous les a donnés. Vous, mère de famille, vous devez, comme la Vierge Marie, considérer votre mari comme votre Seigneur, celui qui détient l'autorité de Dieu à vos côtés et doit vous permettre de réaliser votre vocation de mère et d'éducatrice, votre vocation de femme. Dieu l'a établi, comme saint Joseph, votre soutien, votre protecteur pour la réalisation de votre vocation. Pères et mères, pratiquer les vertus propres à votre état comme saint Joseph et la Vierge Marie sera pour vous le principe de grands progrès dans la sainteté comme il l'a été pour eux et vous aidera peu à peu à ne faire plus qu'un cœur et une âme dans un même esprit, une même affection. Nous voyons souvent autrefois des couples très âgés qui étaient parvenus, justement, à cette union des esprits et des cœurs. La hiérarchie et la complémentarité que Dieu a voulu dans la famille, aidée par la grâce issue du sacrement de mariage, n'ont pas d'autre but que de créer une harmonieuse société, propice à la bonne éducation des enfants et à l'épanouissement des parents. Si chacun est à sa place dans cette famille, la paix, qui est la tranquillité de l'ordre, y régnera. Par contre, si cet ordre est détruit ou perturbé, les conséquences en seront des maux innombrables, tant pour ses membres que pour la société civile. 17 siècles de christianisme ont multiplié les familles chrétiennes sous la conduite de l'Église, créant petit à petit ce qu'on appelle la civilisation chrétienne. Les ennemis du genre humain, l'ennemi du genre humain suscita au XVIIIe siècle des démolisseurs de la famille. Avant de voir quelle est la stratégie de ces démolisseurs, il est bon de prendre un exemple d'une famille de ce début du XVIIe, comme elle existait dans l'ancienne France, pour comprendre quelle en a été la démolition. Il s'agit de la famille formée par Jeanne Frémiot et du baron Christophe de Chantal. Jeanne est née en janvier 1572, elle est fille du conseiller de la Chambre des Comptes à Dijon. La famille de Jeanne est très catholique, un de ses frères deviendra archevêque de Bourges. Le président Frémiot sera veuve de bonheur. Il fera venir à la maison, à Dijon, une de ses sœurs qui est également veuve, pour confier l'éducation de ses enfants à sa sœur. Lui-même est profondément catholique et n'a pas peur de le faire savoir dans les occasions importantes. Ainsi, un jour que le roi Henri IV passa à Dijon, il lui dit « Sire, je vous confesse que si votre majesté n'eût crié de bon cœur « Vive l'Église romaine !» je n'aurais jamais crié « Vive le roi Henri IV !» Formée dans une telle famille, Jeanne apprenait avec une grande souplesse et vivacité d'esprit tout ce qu'on enseignait à l'époque à une demoiselle de cette condition. Lire, écrire, danser, jouer d'un instrument, et plus l'éducation religieuse qui permettait à la grâce d'affermir la foi dans cette jeune âme. L'éducation qu'elle a reçue a embelli les dons de la nature. Elle était d'une humeur vive et gaie, un esprit clair, prompt et net, un jugement solide, en elle rien de changeant ni de léger. On la surnomma la dame parfaite. À 20 ans, elle épousa le baron Christophe de Chantal, âgé de 27 ans. C'était un des plus braves cavaliers de son temps, descendant du côté maternel de Saint-Bernard. Il avait fait preuve de grande bravoure en combattant parmi les ligueurs. Ce fut un mariage d'amour, et comme le baron était obligé par ses charges d'aller souvent à la guerre ou à la cour pour remplir ses devoirs, il a confié à sa jeune épouse la gérance du domaine. Ce n'était pas une petite affaire, car à cette époque-là, la famille comptait non seulement les enfants du couple, et la famille de Chantal aura 7 enfants, mais aussi tout le personnel, servantes, serviteurs, valets de ferme. Donc, être une dame, une maîtresse de maison parfaite était tout un art. Jeanne Françoise fut à la hauteur de la tâche. Elle établit de solides habitudes de piété, prières en commun, messes quotidiennes, cours de catéchisme et chants liturgiques enseignés aux servantes. Elle mit de l'ordre dans les affaires, dans les comptes des fermes, et elle pratiquait la charité envers les pauvres. Cette charité que son mari trouvait un peu excessive, et cela provoquait entre eux parfois de saintes disputes. En effet, le baron était vif et impatient, et il lui disait quelquefois « Il est vrai, madame, je suis trop prompt, mais vous êtes trop charitable. » Pendant l'absence de son mari, elle menait une vie pieuse, retirée, proscrivant les jeux, les plaisirs, la bonne chère, ce qui avait pour effet de tarir les visites mondaines. Mais dès que son mari revenait à la maison, elle faisait tout pour lui plaire et le réjouir. Et elle faisait des invitations. Montrons un petit exemple de sa charité. Lors du terrible hiver 1600-1601, alors que la misère est profonde dans les campagnes de Bourgogne, elle demande avis à son mari sur une idée qu'elle a eue, c'était de transformer les pièces du manoir en hôpital et de faire construire un énorme four à pain pour nourrir les pauvres, un four à pain de 5 mètres de diamètre. Son mari l'a approuvé chaleureusement, bien sûr. Et donc la famille a suivi son cours jusqu'à des épreuves dont elle a été frappée, puisque vous savez que le baron est mort d'un accident de chasse et qu'il a fait une mort très édifiante, et son épouse est devenue Sainte Jeanne-Françoise de Chantal après tout un cheminement. Ce genre de famille n'était pas rare, était même courant dans l'Europe chrétienne. Et ce genre de famille propage et enracine profondément le christianisme dans les cœurs et la société. Il excita la haine de ceux qui se réclament des Lumières. La Révolution va leur permettre d'établir des lois pour détruire la famille. Puisque l'autorité paternelle, par le trésor de vérité morale et d'expérience amassé au cours des siècles, est l'une des bases de l'ordre social, la Révolution va détruire cette autorité. Le révolutionnaire Cambacérès avait dit « Un homme ne saurait avoir un pouvoir sur un autre homme, fût-ce son fils. » Au début du XXe, les socialistes, tels que Malon et Jules Guesde, veulent faire disparaître la famille au profit de l'État. L'important, dit Malon, est d'abolir radicalement l'autorité du père et sa puissance quasi royale dans la famille. L'égalité ne sera parfaite qu'à cette condition. Et Jules Guesde enfonce le clou un peu plus profondément. La famille, écrit-il, ne doit pas être conservée. Il se pose quand même la question, est-ce qu'il faut la conserver ? Non, dit-il. L'intérêt de l'espèce et des membres de la famille exige que cet état de choses disparaisse. On reconnaît le père du mensonge, son inspirateur. Pour y parvenir, les révolutionnaires ont utilisé deux moyens principaux. Le code civil et l'émancipation de la femme. Le code civil, tout d'abord, en instituant la loi du partage forcé. Ce code civil a détruit la famille souche, telle que nous l'avons vu dans l'exemple du baron de Chantal, donc qui héritait du bien, du savoir-faire de tous les ancêtres. Et Napoléon, l'auteur de ce code civil, écrivait à son frère Joseph, roi de Naples, « Établissez le code civil à Naples, tout ce qui ne vous est pas attaché, le code civil va le détruire en peu d'années. » Donc il savait très bien ce qu'il faisait. C'était pour détruire la famille chrétienne de l'ancienne France. « Et tout ce que vous voudrez conserver se consolidera. » Donc les familles, les conséquences, eh bien que les familles sont appauvries, elles ne peuvent plus transmettre les biens de leurs aïeuls, et puis ces biens sont taxés par l'État. Donc à chaque régénération, il faut recommencer, etc. Et puis les familles, pour s'adapter, vont avoir moins d'enfants, donc il va y avoir une baisse de la natalité. La France, qui était le pays le plus peuplé d'Europe au moment de la Révolution, va devenir un pays parmi d'autres. Le deuxième moyen est l'émancipation de la femme. Les ennemis de la famille savent que la femme transmet les valeurs chrétiennes dans le cœur de ses enfants. Presque tous les saints et beaucoup de grands hommes attribuent leur sainteté ou leur grandeur à leur mère. Napoléon, qui avait compris cela, disait « L'avenir d'un enfant est l'œuvre de sa mère ». Et Mgr de Lassus explique ainsi l'influence de la femme chrétienne sur l'homme. « Mère, la femme chrétienne sanctifie l'enfant. Fille, elle édifie l'homme père. Sœur, elle améliore l'homme frère. Épouse, elle sanctifie l'homme époux. » L'émancipation de la femme va la faire déchoir de cette haute vocation. Ça va être complètement détruit. Elle n'aura plus d'influence bénéfique sur l'homme. Elle aura l'égalité avec l'homme, mais elle n'aura plus d'influence sur lui. Une influence mauvaise. La liberté des mœurs, l'esprit d'indépendance, le travail à l'usine ou dans les bureaux, va faire de la femme un quasi-homme. Elle n'aura plus besoin d'être soumise à son mari et confiera ses enfants à la garde des autres pour gagner sa vie. C'en est fini de la belle harmonie du foyer voulue par le Créateur. Le modèle de la famille semble être pour la femme moderne, de la Sainte Famille, pardon, semble être pour la femme moderne une institution préhistorique dépassée. Les conséquences vont être terribles. C'est l'éclatement des familles, le déchirement des enfants et la délinquance au niveau social. Au bout de ce processus de destruction, on arrive petit à petit à une société composée d'individus dégénérés, manipulables et prêts pour l'esclavage consenti du mondialisme. Alors, que faire pour redonner la santé à la famille? Tout d'abord, il faut, comme on dit, sauver les meubles. Il faut d'abord penser à vos familles, vivre l'enseignement de l'Église concernant vos familles, demander à la Sainte Famille les grâces nécessaires pour résister à ce courant délétère, en vivant profondément votre foi, en menant une vie intérieure profonde et en faisant de vos familles autant de petits Nazareths qui seront des îlots de chrétienté capables d'attirer par leur exemple les âmes déboussolées de notre temps. Ensuite, il faut se former sur les lois qui doivent régir une société chrétienne. Si la société s'écroule et qu'on n'a rien à mettre à la place, il n'y aura pas de solution. Donc, il faut bien se former pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Afin que le moment venu, des hommes solides, vertueux, bien formés, puissent prendre les choses en main, chacun à leur place. Alors, dans cette perspective, demandons au Seigneur que par la double intercession de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et du bienheureux Joseph, il établisse vos familles dans sa grâce et sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.